Si je vous posais la question ce matin, quel cadeau? Si Dieu vous demandait quel cadeau veux-tu que je te fasse? Quelle réponse vous auriez ce matin? Tout le monde court les magasins pour acheter des cadeaux. Et si Dieu lui-même? J'ai entendu la prière du frère tout à l'heure, qui a mentionné, je ne sais pas si c'est une amie, si c'est une amie, c'est une amie, voilà, qui est dans des douleurs atroces, a dit le frère. Voilà, il demande à ce que nous prions pour sa guérison.
Corinne.
Voilà, comment?
Corinne.
Corinne. Voilà, que Dieu accorde ce cadeau à Corinne. La guérison est surtout le soulagement dans son corps. Et si l'un ou l'autre, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui dirait, oui, voilà le cadeau que j'aimerais que Dieu m'accorde en ce jour où on parle beaucoup de cadeaux. Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre qui aimerait exprimer et dire, oui, voilà ce que je reçois, voilà le cadeau. Là, je rejoins la prière du frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre parmi nous? Oui, personnellement, pour soi, si on n'est pas passé par là. Un cadeau spécial qu'on aimerait recevoir du Seigneur. Voilà, bien sûr, la repentance, c'est pas simplement une fois dans la vie. On doit se repentir souvent, hein, dès qu'on sait qu'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé entre nous et Dieu, entre un frère et une sœur, ou la repentance. Voilà, c'est un cadeau aussi à demander à Dieu, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un cadeau spécial, non? Oui, Carole?
Savoir utiliser mon temps comme Christ vous voulez, pour servir Christ.
Vous avez compris?
La gestion du temps,
voilà. Comme le Seigneur voudrait que Carole utilise son temps, je crois que cette prière de Carole, on pourrait le faire aussi chacun pour nous, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide à bien gérer le temps qu'il nous accorde. Parce que nos jours sont comptés, on ne sait pas combien de temps nous allons vivre sur cette terre. Ce n'est pas les plus âgés qui partent les premiers. Regardez ce qui s'est passé à Mias, à Fleur de l'âge. Ils sont partis. Étaient-ils prêts à rencontrer Dieu? Voilà, ce qui compte, c'est d'être prêt. Pour ce moment, à quelque âge que ce soit, d'être prêt. Il y en a qui disent, oh oui, à la retraite, j'aurai le temps de penser ces choses. Est-ce qu'on y arrive? Est-ce que nous y arriverons? Est-ce que les jeunes arriveront à ce moment-là? Alors, nous avons chanté un peu plusieurs fois dans les cantiques. Nous avons utilisé le mot, et puis c'était affiché ici, sur le mot les bergers. Alors, c'est justement ce texte que j'aimerais lire avec vous, dans Luc, au chapitre 2. Même si vous n'avez pas répondu ici, à la maison, vous pouvez dire, oui, Seigneur, j'aimerais que tu m'accordes cela. Je n'ai pas osé le dire en public, mais au fond, dans mon cœur, voilà ce que j'aimerais que tu m'accordes. Donc, à partir du verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Oui, Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ta parole qui est riche, qui est profonde, qui est puissante et qui est pleine d'enseignements. Et tu veux nous interpeller, tu veux nous rappeler les bonnes choses qui sont dans ta parole, Seigneur. Fais-nous du bien, fortifie-nous, encourage-nous ce matin, nourris-nous par ta parole, Seigneur. Bénis et sanctifie ta parole et aussi aide-moi, Seigneur, inspire-moi dans tout ce que tu veux que je dise à mes frères et sœurs ce matin. Et d'abord à moi-même, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait dans cette contrée des bergers. Dieu aurait pu choisir d'autres personnes que les bergers pour révéler cette naissance. Il aurait pu choisir Hérode, par exemple. Quand les mages sont allés voir Hérode et que lui en de, où est le roi des Juifs qui doit naître, hein? Oui, et alors Hérode, il a dû se renseigner pour savoir, oui, où est-ce que ça avait lieu. Puis finalement, ils ont réussi à trouver que c'était à Bethléem. Et puis, lorsque vous l'aurez trouvé, bien, venez me le dire, pour que moi aussi, j'aille l'adorer. Mais ils n'avaient pas les dispositions du cœur de ces bergers. Nous savons que si Hérode voulait savoir où était né ce roi des Juifs, c'était pour aller le tuer. Des bergers. Je te loue, Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, de les avoir révélées aux simples et aux humbles. Des bergers. Dans toute la simplicité, dans toute l'humilité. Des bergers. Oui, où étaient-ils? Bien, ils étaient dans les environs de Bethléem. Pourquoi étaient-ils là en train de garder les troupeaux de brebis? Eh bien, parce que ces brebis, peut-être dans quelques semaines, peut-être dans quelques jours, ces brebis allaient être égorgées, allaient être amenées à Jérusalem et allaient servir comme sacrifice d'action de grâce, ou bien pour les péchés, ou bien pour différentes raisons. Hein? Voilà, ces brebis étaient là, au fond, dans le but de sacrifice. Et les bergers, donc, y gardent ces troupeaux. Est-ce qu'ils savent ce qui va les attendre? Ils ne savent pas, une nuit comme les autres nuits, tout à fait, rien de particulier. Mais voici, un ange du Seigneur leur apparaît. Un ange, un envoyé du ciel apparaît à ces bergers. C'est justement et souvent dans la vie, dans ce que nous sommes en train de vivre nous-mêmes, dans ce que nous entreprenons, dans le travail que nous faisons ici et là, que le Seigneur se plaît de nous apparaître, de se révéler, de se manifester. Comme nous, en ce mois de septembre 1979, alors que je vendais les produits de la ruche, j'étais là, et voici qu'un jeune Dominique se présente devant moi et puis me tend un petit livre. C'était un évangile de Jean et me demande « Es-tu chrétien ?» Mais oui, je suis chrétien. Mais qui est Jésus-Christ pour toi? Moi qui ai passé tant d'années au séminaire pour devenir prêtre, j'avais la bouche fermée, je ne savais pas quoi répondre. Vous voyez, Dieu se plaît de venir nous rencontrer dans le travail que nous accomplissons, dans une circonstance particulière comme les bergers qui gardent leur troupeau. Dieu se plaît à leur apparaître, à se manifester à eux. Comme ce musulman qui est à la Mecque et qui fait, vous savez, il doit faire 7 fois le tour de la Kaaba et jeter des cailloux sur soi-disant le diable qui est là et qui fait 1 fois, 2 fois le tour. Puis à un moment, il s'arrête et il entend une voix. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il reçoit une apparition. Et il comprend que il ne continue plus le 3e ou le 4e tour ou le 5e tour. Stop, c'est le moment. Et là, il donne son cœur à Jésus. Il va aller raconter ça dans la famille. Et toute la famille va accepter Jésus-Christ comme son sauveur. Voilà, dans des tâches toutes simples, dans des conditions de travail, dans des conditions toutes spéciales, eh bien, Dieu se plaît. Toutes particulières, toutes spéciales, toutes... Voilà, Dieu se plaît. Là, il apparaît. Et si on n'a pas cette apparition, si on n'a pas une révélation, si on n'a pas une manifestation de Dieu dans notre vie, eh bien, où est la nouvelle naissance? Il n'y aura pas de départ de nouvelle naissance. Pour que Dieu naisse en nous, il faut qu'il nous apparaisse dans notre cœur, dans notre âme. Il faut qu'il se révèle, il faut qu'il se manifeste en nous. Sinon, je continuerai, j'irai à l'église, oui, de temps en temps, quand j'ai envie d'y aller. Puis, si je n'ai pas envie d'y aller, je n'irai pas. Je ne suis pas attaché, parce que je ne suis pas né de nouveau. Pour que la naissance, la nouvelle naissance ait lieu, il faut une manifestation, il faut une révélation d'en haut, de Dieu lui-même. Il faut qu'il se révèle au plus profond de nos entrailles, dans notre cœur, dans notre ventre, dans notre être intérieur. À ce moment-là, quand il se révèle à nous, alors on n'a plus qu'envie de le suivre et de faire comme, on le verra plus tard, ces bergers qui, après être allés jusqu'à Bethléem, ils vont louer, ils vont glorifier Dieu parce que Dieu s'est manifesté à eux, parce que Dieu s'est révélé à eux. Il nous faut... C'est le déclenchement, c'est cette révélation. C'est ce que j'ai dit plusieurs fois lorsque nous témoignons, si Dieu ne se révèle pas à nous, nous pouvons lui demander, Seigneur, aide-moi, je veux te connaître, révèle-toi à moi. Et ceux qui le font d'une manière sincère et profonde et réelle, Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Celui qui me cherche de tout mon cœur, moi, je me laisserai trouver par lui. Il nous dit même celui qui ne me cherche pas, je me laisserai trouver par lui. Mais il ne faut pas s'appuyer sur « bon, je ne le cherche pas, donc Dieu doit se manifester à moi. Dieu se révélera à moi. » Non, celui qui me cherche. Appuyons-nous sur ce verset. Combien il y en a qui sont allés dans le désert parce qu'ils croyaient que dans le désert, ils allaient rencontrer Dieu. Effectivement, pour certaines personnes, dans certains cas, Dieu s'est révélé dans des personnes en plein désert. Pour d'autres, ils sont allés dans des déserts et puis ils ont dit non, Dieu n'est pas là, Dieu n'existe pas. Mais si on est sincère, si on est réel, et si on veut réellement cette vie avec Dieu, eh bien, on peut lui demander, Seigneur, révèle-toi, manifeste-toi en moi. Donc, un ange du Seigneur leur apparaît. On voudrait, n'est-ce pas, que tout d'un coup, un ange nous apparaît et puis se met là sur notre route. Je pense à cet étudiant à l'école publique où j'ai enseigné là-bas au Burkina Faso, qui disait, voilà, pour aller chez moi, je pouvais prendre le chemin direct. Ou bien je pouvais contourner par là, et puis si je contournais, je savais que là, eh bien, un lieu de mauvaise fréquentation. Mais je me disais, si Dieu ne veut pas que j'aille par là, il va se manifester, il va m'interrompre, il va m'arrêter. Oui, quand je lui ai dit, mon frère, oui, si tu ne mets pas ta volonté, notre volonté doit s'engager. Le fait de dire, Seigneur, révèle-toi à moi, déjà, notre volonté s'engage. Mais si je dis, oh bien, je continue à vivre comme j'ai envie de vivre, oui, un peu de Dieu ici, un peu de Dieu par là, il ne se révélera pas, il ne se manifestera pas à moi. Mais si je le veux réellement, si je veux engager ma volonté, alors il se manifestera. Et cet étudiant, qui était pourtant en deuxième année de l'école biblique, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, mais personne ne m'a jamais dit cela. Je dis, mais c'est écrit dans la Bible, je mets devant toi la vie ou la mort. Je mets devant toi le bien ou le mal. Mais choisis le bien, choisis la bénédiction, non pas la malédiction. Voilà, nous devons choisir. Et pour choisir, eh bien, nous devons engager notre volonté. Et ce jour-là, le frère, et ça a été témoigné après par les autres étudiants, ce jour-là, à partir de ce jour-là, ce frère a complètement changé. Parce qu'il a compris qu'il devait engager sa volonté. Cet étudiant, sa deuxième année, il l'a pas vécu comme la première, et la troisième, c'était vraiment, voilà, une révélation. Parce qu'il avait une révélation de, oui, qu'il devait engager sa volonté, et sa volonté, eh bien, l'a conduit à la délivrance. C'est vrai, quand on engage notre volonté à chercher Dieu, à vouloir le connaître davantage, à vouloir davantage de lui, alors il se charge de nous transformer, de nous changer. Là, voici un ange du Seigneur leur apparaît, tout simplement, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. L'apparition et la gloire. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté un petit peu de cette gloire du Seigneur. Est-ce que ça vous est arrivé en lisant la Bible ou dans la prière ou chez vous, ou seul dans votre chambre, ou d'imaginer cette gloire ou bien de méditer, puis à un moment, l'Esprit de Dieu vous éclaire, vous inonde, et puis c'est comme si vous goûtiez à ce moment-là un peu de la gloire du Seigneur. Vous voyez, c'est extraordinaire de... Parce que Dieu ne veut pas simplement nous laisser avec un texte, parce que la lettre, on sait bien que la lettre tue. La lettre ne nous apporte rien si elle n'est pas illuminée, si elle n'est pas éclairée, s'il n'y a pas la gloire de Dieu au fond dans ce que je lis, s'il n'y a pas l'Esprit Saint qui est là dans ce que je lis, bien cela ne va rien m'apporter. Ma vie ne va pas changer, mon cœur ne va pas être transformé, ne va pas être changé. Mais lorsque je lis dans l'humilité, dans la simplicité, dans un esprit de prière, alors à ce moment-là, la gloire du Seigneur va resplendir en moi, va m'illuminer, m'éclairer. Est-ce que ça vous est arrivé aussi devant la parole de Dieu? C'est vrai qu'il y a des textes qui sont où on voit le cœur de Dieu qui souffre, qui pleure, qui s'unit à nous de pouvoir pleurer devant sa parole. De pouvoir pleurer parce que on entend, on comprend, on saisit le cœur de Dieu au travers de ce que nous lisons. Il ne faut pas se contenter simplement d'une lecture. Et encore, est-ce que je le lis? Quand est-ce que je le lis? Combien de... Voilà, d'une lecture assidue, d'une lecture quotidienne. Vraiment que cette lecture soit une nourriture pour nous. Autrement, eh bien, je ne suis pas un chrétien. Si Dieu ne m'apparaît pas, si la gloire de Dieu ne se manifeste pas en moi, je suis au bord du chemin, mais je ne suis pas dans le chemin, je ne suis pas sur le chemin avec Christ pour le suivre. Lui, il veut me mettre sur son chemin. Il nous a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si je marche à côté, il n'est pas mon chemin. Oui, je suis un chemin, mais de loin. Je ne suis pas sur le chemin. Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Fais-moi voir ta gloire. Est-ce que Moïse n'a pas dit cela? Fais-moi voir ta gloire. Si tu ne me fais pas voir ta gloire, bien, je n'irai pas. Je ne conduirai pas ce peuple. J'ai besoin de voir ta gloire. On est dans des souffrances, on est dans des difficultés, on a tant et tant de choses qui sont autour de nous. Et Dieu veut nous engager pour nous aider. S'il ne nous apparaît pas, si on n'a pas sa révélation, si on ne goûte pas un peu de sa gloire, comment allons-nous vivre cette vie ici-bas sur la terre? Oui, Dieu veut bouleverser notre vie. La venue de cet enfant a bouleversé la vie de ses bergers. Ces bergers n'étaient plus les mêmes à partir de l'apparition, à partir du moment où la gloire de Dieu s'est manifestée, a resplendi autour d'eux, ils n'ont plus été les mêmes. Il nous est dit, ils furent saisis d'une grande frayeur. Et oui, ils n'avaient jamais reçu la manifestation de Dieu, ils n'avaient jamais goûté ou vu la gloire de Dieu resplendir autour d'eux. C'est vrai que quand la gloire de Dieu resplendit autour d'eux, on peut être rempli d'une frayeur, on peut avoir... Parce que Dieu est saint. Et nous sommes si loin de la sainteté que Dieu voudrait que nous ayons dans notre vie. Nous sommes si loin, par nos paroles, par nos comportements, par nos pensées, d'une manière ou d'une autre. On est tellement influencé par l'esprit de ce monde, par tout ce que ce monde nous sert, nous quotidiennement, jour après jour, dans tout ce que nous voyons, dans tout ce que nous entendons. C'est le monde qui nous influence. Et s'il n'y a pas une coupure, s'il n'y a pas un stop vis-à-vis de ce monde, eh bien je continuerai pareil, mais rien ne changera dans ma vie. Et quand je suis mis face à face avec la sainteté de Dieu, je ne peux faire que comme l'apôtre Jean, quand il se révèle dans le début de l'Apocalypse, vous savez, il tombe sur ses genoux, il tombe à terre. Il est saisi d'une crainte, d'une grande crainte. Que Dieu nous aide aussi à réaliser qu'il est saint, que Dieu est saint. Et que nous sommes pécheurs encore. Nous sommes pécheurs, nous sommes des pécheurs, mais Dieu nous tend la main. Il veut se révéler à nous. Il veut manifester sa gloire en nous. Et il veut aussi manifester sa sainteté. Il nous dit, voilà, je suis saint, 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 saint est l'Éternel. Et quand on est dans cette attitude d'humilité, à genoux devant notre Créateur, devant notre Dieu, devant notre Sauveur, à ce moment-là, les dix anges leur dit, ne craignez pas. Le Seigneur ne nous laisse pas dans l'abattement, dans l'affliction, dans l'abaissement. Il vient pour nous relever, pour nous aider. Ne craignez pas. Car je vous annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est pas, oui, tu es un pécheur, tu dois pas, tu es un pécheur. Non, Dieu ne nous répète pas sans cesse cela. Et ne nous dit pas sans cesse, tu es un pécheur, ça, il faut ne pas, goûte pas, ne dis pas, ne fais pas ceci. Non, il dit, oui, effectivement, il ne faut pas le faire, mais d'abord, reçois, accueille mon amour. Regarde comme je t'aime. Regarde comme je t'aime. Ça, c'est la bonne nouvelle. Être convaincu. Lorsque, en 1979, quand j'ai répondu, oui, mais qui est Jésus-Christ pour toi? Bien, moi, je ne savais pas répondre. Et cet ancien drogué qui était là et qui était devant moi, ce Dominique, quand il m'a emmené, quand il nous a emmené à l'église, et quand le message a été délivré de Jean 3,16, là, j'ai vu comme sur un tableau noir, j'ai vu tous mes péchés qui étaient en train de remplir ce tableau noir. Je voyais tous mes péchés, mais au même instant, j'étais convaincu, j'ai reçu l'amour de Dieu. Je savais que Jésus-Christ m'aimait. Je voyais mes péchés et je recevais son amour. Et au moment où ce tableau se remplissait, une fois qu'il n'y avait plus de place pour tous les péchés que j'avais pu commettre depuis mon enfance jusqu'à ce jour-là, c'est comme si la main percée, la main ensanglantée de Jésus était en train d'essuyer, de laver ce tableau de mes péchés. Je comprenais que son amour ne me laissait pas prisonnier de mes péchés. Il me révèle mes péchés, mais c'est pour m'en délivrer, c'est pour me libérer, c'est pas pour rester esclave de mes péchés. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Voilà, pour tout le peuple d'Israël, et puis un peu plus loin, il y a pour tous les peuples. Oui, c'est pour le peuple d'Israël d'abord, parce que le salut vient des Juifs. Le salut a été annoncé d'abord aux Juifs, puis les Juifs devaient le disséminer dans le monde entier. Donc pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. Oui, est-ce que cette joie n'est pas grande? C'est vrai, on se rappelle, c'est Noël, Jésus est né sur la terre, Jésus... Mais c'est... Comment? Lui, le Dieu créateur... Lui, le Dieu trois fois saint, lui qui siège dans les lieux célestes, lui qui est sur son trône, lui qui est le Créateur, lui qui a créé ce monde, cet univers, et qui a créé les anges, les archanges, qui a créé le monde entier, tous ces fruits, ces arbres, tout ce que nous voyons, la mer, les océans, les montagnes, les plaines, lui qui devient un simple bébé, qui vient naître dans le sein de Marie, dans le sein de sa mère, par la puissance surnaturelle de Dieu, sans qu'il y ait eu un rapport d'homme à femme, parce que s'il y avait eu l'homme et la femme ensemble, ils n'auraient pas été conçus sans péché. Mais comme il venait du ciel dans le sein de Marie, il a été conçu sans péché. Le seul qui a été conçu sans péché. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Est-ce que ce n'est pas un sujet de joie? On n'aurait pas envie de chanter, de sauter, de dire « Merci Seigneur, toi mon Créateur, toi mon Dieu, tu es venu, tu as daigné de venir et t'abaisser, de venir sur cette terre pour te révéler, pour me sauver, pour me délivrer de mes péchés. » Cela doit nous remplir de joie, oui. Un Sauveur nous est né. Mon frère, ma sœur, un Sauveur nous est né. On aurait envie de le dire à tous les gens de la rue, sur la place de Cassagne, partout. Un Sauveur vous est né. Est-ce que le monde, qui dans le monde peut dire cela, un Sauveur vous est né? Est-ce que les gens du monde peuvent dire un Sauveur vous est né? Non. Oui, lorsque nous étions dans l'ex-Zaïre, qui est la République démocratique du Congo, il y avait des pancartes partout, le seul libérateur, le seul sauveur, le président, maréchal Mobutu, c'est Sese Seko. Mais c'était faux, où est-il lui? Il est dans le tombeau, il est mort. Mais notre sauveur est vivant, il est ressuscité. Un sauveur nous est né. Un sauveur nous est né, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui se plaide, lui, le Créateur, qui vient s'humilier, devenir, se dépouille de sa gloire, il vient s'humilier, s'abandonner entre les mains des hommes. Oui, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur. C'est ça la bonne nouvelle, un Sauveur. Un Sauveur de nos péchés, un Sauveur de notre vaine manière de vivre, un Sauveur de nos pensées qui sont loin de Dieu, loin de ce que Dieu veut pour nous. Nos pensées sont loin, notre volonté est loin, tout ce que nous vivons, tout ce que nous sommes est loin, mais une bonne nouvelle, un Sauveur nous est né, qui nous apporte la joie, qui nous donne la joie. Un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Quel jour! Ce jour de la naissance, on sait bien que ce n'est pas le 25 décembre, on ne sait pas, cela a été dit mille fois, mais il y a eu un jour, quand même, où Jésus est venu sur la terre. Notre Sauveur est venu sur la terre. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté couché dans une crèche. Pourtant, il y avait un roi Hérode. Pourtant, Jésus aurait pu naître dans le palais du roi Hérode. Non, là, une crèche. Il y avait bien des hôtelleries, il y avait bien des hôtels. Là, du temps de Jésus, il y avait des hôtels, mais pas de place. Lui, le Fils de Dieu. Lui, notre Dieu, le Créateur. Pas de place pour lui. Pas de place pour lui. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a de la place dans le cœur des hommes pour accueillir Jésus-Christ dans les cœurs? Non. Jésus-Christ, on en veut bien, comme disait David, on le chante dans les magasins, dans les supermarchés, mais le cœur des gens qui se promènent dans ces magasins, qui vont, où est ce qui compte? C'est la naissance de Jésus dans le cœur des gens. Dans notre immeuble, il y a une femme qui a dit « Venez voir ma crèche ». Dans notre immeuble, venez voir ma belle crèche avec des santons ici du Roussillon, je sais pas, en poterie. Venez voir ma crèche. Je lui dis, mais oui, mais est-ce que ce Jésus, il est dans votre cœur? Est-ce que vous l'aimez réellement? À quoi ça sert? Oui, on peut avoir une crèche pour symboliser, mais ce qui compte, c'est ce Jésus, un Sauveur, qui nous est né, qui est né où? Pas simplement dans l'étable, mais dans mon cœur. Un Sauveur vous est né, qui est le Christ, le Seigneur. Oui, une crèche. Mon Dieu, mon Sauveur, celui qui va être crucifié bientôt. Mais ce jour-là, il naît dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Parce que c'était une joie. La joie s'est manifestée dans le ciel. L'ange, les anges, multitude, combien y avait-il de centaines de milliers d'anges qui étaient là en train de louer, de se glorifier. Voilà, le jour du salut est arrivé. Voilà, le jour où Dieu a décidé d'envoyer son Fils bien-aimé est arrivé. L'heure a sonné. Une multitude de l'armée céleste. Il n'est pas dit une multitude d'anges, mais parce que les anges font partie du, font une armée, les hommes verront un jour. Lorsqu'ils attaqueront, on sait que le jour va venir où les hommes, où les armées humaines vont attaquer Jérusalem, vont essayer de détruire Jérusalem ou Israël. On sait que le jour vient où les armées humaines, mais là Dieu enverra ses armées. Parce que notre Dieu est appelé aussi l'Éternel des armées. Notre Dieu est un combattant. Tout, si on regarde l'Ancien Testament, que de combats ont été menés, que ce soit à Jéricho ou ailleurs dans tout le pays d'Israël. Que de combats, que de combats, que de combats. Et combien de fois Dieu a dit à l'homme, je combattrai pour vous. Je combattrai pour vous. Voilà. Parce que Dieu n'est pas seul, il a toute une armée céleste avec lui. Je ne regarde même pas l'heure parce que je sais pas si c'est... Oui, je ne sais pas jusqu'à quelle heure parce que je...
Ça va, Joseph, continue.
Oui, oui, je ne veux pas trop... Voilà. Et cette armée céleste, là, elle n'est pas en train de combattre. Elle est en train de louer Dieu. Et de dire gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Là, Dieu est en train de réconcilier, c'est le commencement de la réconciliation du ciel avec la terre. Vous voyez, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Parmi les hommes qui l'agréent, parmi les hommes qui l'acceptent, parmi les hommes qui le reconnaissent. Parce que il n'y a pas de paix autrement pour les hommes qui n'acceptent pas Jésus-Christ, il n'y a pas de paix pour eux. Au contraire, c'est la colère de Dieu, c'est le jugement de Dieu sur les hommes qui refusent de faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Donc, les lieux très hauts et la terre. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Oui, c'est le jour où Noël, ce jour où Jésus est né, c'est le jour où, au fond, Jésus-Christ est venu pour accomplir. Il commence à accomplir la volonté de son Père. Parce que les hommes étaient encore enfermés dans les péchés. Tous les sacrifices que les hommes faisaient, que le souverain sacrificateur faisait, etc., par rapport au péché, les gens sortaient et n'étaient pas délivrés. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut délivrer l'homme de ses péchés. Donc c'est le jour du commencement, au fond, où Jésus vient pour faire la volonté de son Père, parce que qui enverrai-je? Et Jésus a dit, me voici. Jésus a dit, me voici pour faire ta volonté au Père. Oui, quel jour de gloire, ce jour-là où Jésus est venu sur la terre. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, et les anges vont les quitter. Combien de temps ces anges sont restés et louant Dieu, et glorifiant Dieu face à ces bergers? Combien de temps s'est-il passé? J'aurais aimé, vous auriez aimé être parmi ces bergers et participer à cette louange, entendre le voix des anges et de cette multitude de l'armée céleste en train de louer, de glorifier Dieu. Vous auriez aimé être là aussi parmi ces bergers qui ont été témoins de cette réalité, de cette venue de Jésus sur la terre. Nous aurions aimé être témoins, mais aujourd'hui, dans notre être intérieur, dans nos cœurs, nous pouvons être témoins par l'Esprit de Dieu, par sa révélation, par sa manifestation, la manifestation de sa gloire en nous et sur nous. Nous pouvons être témoins de que ces choses sont réelles et sont vraies. Et ont un impact sur notre vie. Oui. Donc, et oui, tous les bons moments, même les meilleurs, ont une fin. Les anges doivent quitter pour retourner au ciel. Donc, au fond, les anges sont descendus pour s'approcher des bergers. Ils ont été comme les envoyés de Dieu pour révéler cette réalité, donc aux bergers. À ce moment-là, les bergers se disent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils auraient pu rester là et puis se réjouir de ce qu'ils ont vu. Et puis, non, ils ont voulu aller jusqu'à Bethléem. Ils ont voulu voir de leurs yeux ce qui est arrivé et ce que le Seigneur leur a fait connaître. Oui, et nous aussi, allons voir dans sa parole. Allons voir dans sa parole. C'est notre Bethléem. Notre Bethléem est là, dans la Bible. Allons voir dans notre Bethléem ce qui est arrivé, en lisant, en nous nourrissant de sa parole, et ce que le Seigneur nous a fait connaître. Comment Dieu peut-il nous faire connaître ce qu'il a, ce qu'il est pour nous, son amour pour nous, ce que nous représentons pour lui, combien nous sommes précieux, combien nous avons de la valeur pour Dieu. Nous avons de la valeur, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. S'il est venu sur la terre, ce n'est pas simplement pour les hommes en général, mais c'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma sœur. C'est pour toi, papa, maman, enfant, jeune, jeune fille, jeune gens. C'est pour toi que Jésus est venu sur cette terre pour te se faire connaître à toi, et c'est par amour pour toi, pour te sortir des griffes du monde, pour te sortir de l'esclavage de ce monde, et pour te faire rentrer dans son royaume. Parce que lorsqu'il vient, se manifeste, il se fait connaître à nous, c'est pas pour nous laisser là où nous sommes, prisonniers, loin de nous. Au contraire, c'est pour, loin de lui, c'est pour nous prendre, pour nous amener avec lui, dans son royaume. Et à partir du moment où nous sommes dans son royaume, plus rien, plus personne ne peut nous sortir de son royaume. Qui vous ravira de ma main ? Nous avons été greffés, nous avons été unis au travers de la croix de Golgotha, nous avons été unis aux souffrances de Jésus-Christ à Golgotha, et personne ne pourra nous ravir. Nous lui appartenons à partir du moment où nous avons eu cette manifestation, cette révélation. Nous avons goûté sa gloire, nous avons goûté la richesse de sa parole. À ce moment-là, plus personne, plus rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Ni les puissances en haut, ni les puissances en bas, ni les démons, ni rien, ni la faim, ni la nudité, ni la persécution. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Il vient là, il s'abaisse jusqu'à nous pour nous prendre et pour nous amener dans son royaume, pour ne plus jamais nous laisser partir de son royaume. C'est comme si on parle de berger. On parle de berger, Jésus lui-même est appelé le bon berger. Il dit « Je suis le bon berger ». À l'époque de Jésus, ces brebis étaient dans un enclos. Et cet enclos, il n'y avait pas de porte ou de fenêtre, mais il y avait comme une entrée. Et c'était la coutume pour le berger de passer la nuit. Il se couchait au travers de cette porte qui n'en était pas une. C'était lui, la porte. Pourquoi Jésus va dire « Je suis la porte ». Aussi, « Je suis la porte, je suis le bon berger ». Parce que le bon berger, il se mettait en travers. Si bien que s'il y avait des bêtes sauvages ou comme ça qui voulaient venir se saisir de brebis pour les tuer ou des voleurs, il avait affaire directement au berger qui était là. Voilà pourquoi Jésus dit, moi je donne ma vie pour mes brebis, je suis là. Si quelqu'un ose venir maintenant attaquer ces brebis-là, c'est à moi qu'il a affaire et personne ne ravira les brebis. Si nous faisons partie de sa brebis, si nous faisons partie de son troupeau, alors personne ne pourra nous arracher de ce troupeau-là, de ce troupeau-là. Il y a une expression qui est intéressante ici, ils y allèrent en hâte. Vous voyez, ils n'ont pas attendu, discutaillé ou comme ça, ils y allèrent en hâte. À partir du moment où Dieu révèle quelque chose à nous, à partir du moment où Dieu nous fait connaître sa volonté, ce qu'il veut pour nous, bien, il s'agit de ne plus hésiter, il s'agit de hâter même ce moment où, Seigneur, je viens maintenant, je n'attends pas une semaine, deux semaines, un mois, une année, avant de, avant de m'avancer, avant de prendre une décision, parce qu'il y en a qui viennent dans l'église dimanche après dimanche, ou bien quand ils en ont envie, et ils ne prennent jamais de décision. Ils ne prennent jamais de décision et ne disent pas « Aujourd'hui, ça y est, aujourd'hui, je me décide de suivre réellement Jésus-Christ. » Eux, ils s'en vont en hâte. Ils ont reçu la révélation de Dieu, ils ont reçu, ils ont goûté cette gloire, et ils s'en vont en hâte. Et ils vont trouver Marie et Joseph, le petit enfant, couché dans la crèche. Ils voient la réalité de ce qui leur a été annoncé. Et nous aussi, lorsque nous avons cette manifestation, cette révélation, et que nous commençons à nous nourrir et à lire la parole de Dieu, eh bien nous réalisons que les choses sont telles qu'elles nous ont été décrites. C'est la réalité. Peut-être, c'est vrai, comme moi j'étais au séminaire pour devenir prêtre, pendant les dimanches ou dans la semaine, on lisait parfois des portions de la Bible, mais j'étais loin, j'étais complètement étranger à cette vie-là. Oui, j'avais quelques sentiments, mais je ne connaissais pas mon Sauveur, je ne connaissais pas mon Dieu. Mais ce jour-là, oui, depuis ce jour-là, je sais que tout ce que j'avais entendu, tout ce que le prédicateur disait, bien, c'est devenu réel au fur et à mesure où j'ai grandi, où j'ai développé cette connaissance de sa parole. Et après avoir vu ces choses de ses yeux, voilà, les bergers racontent, ils vont raconter ce que leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Ils ne vont pas garder pour eux-mêmes ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont vu, mais ce qu'ils ont vu de leurs yeux, ce qu'ils ont entendu de leurs oreilles, ce qu'ils ont touché de leurs mains, voilà ce qu'ils vont raconter aussi au sujet de ce petit enfant. Et tout ce qu'ils entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Voilà, ces bergers deviennent des témoins, des disciples de Jésus-Christ, et témoignent tout autour d'eux de ce qu'ils ont vu. Parce que quand on a découvert ce trésor, cette richesse, on ne le garde pas pour soi. Quand on connaît Jésus-Christ comme son Sauveur, on ne le garde pas pour soi, on a envie de le donner aussi aux autres. Et tout ce qu'ils entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Et Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu. Auparavant, c'était les anges qui louaient et glorifiaient Dieu. Maintenant, c'est les bergers, après avoir reçu la révélation, après avoir eu la manifestation de Dieu dans leur cœur, après avoir entendu ces anges qui louaient, qui glorifiaient Dieu, après avoir été les témoins de Jésus-Christ, eh bien, ils repartent, mais ils sont remplis de cette gloire. Eux-mêmes glorifient, eux-mêmes louent pour tout ce qu'ils ont entendu et vu et qui a été conforme à ce qui leur avait été annoncé. Ils sont remplis de louanges.